la page de quelque chose de fausse. Hein. Et donc, là, c'est clair qu'à partir d'un certain moment, alors, quel est le certain moment, il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir une œuvre écrite et qu'il pouvait en faire un livre. Et à condition de ne pas être tué, hein, parce que c'était le danger immédiat permanent. Et on trouve, si vous lisez de près, il y a des moments où il commence à dire « Ah, mais peut-être qu'il faudrait réécrire ça comme ça. » C'est-à-dire que c'est un peu intuitif. Je pense que sur les 4 ans des journaux, au bout de la 2e année, il commençait déjà à se dire que alors son père il y a beaucoup poussé. Son père voyait toujours, c'était un homme qui avait les pieds sur terre, qui voyait toujours l'intérêt matériel des choses, et lui l'encourageait très vite en voyant l'importance des carnets qu'il laissait chez lui au fur et à mesure qu'il passait au suivant. Il lui encourageait son fils à faire une carrière littéraire. Mais à un moment donné, c'est très drôle, enfin on ne le voit pas, son père, il avait très peu d'argent, hein, enfin, quand il était jeune marié, il avait un gosse, il aurait bien dû représenter le commerce.
Bien, merci. Monsieur.
Oui, alors, il était entomologiste, mais est-ce que ça n'a pas entamé son humanisme? Parce que j'ai entendu dire qu'il aimait bien, qu'il aimait bien dire, commander les pelotons d'exécution pour voir comment ça faisait à Paris, hein, et comment relever les lettres des otages ou des meurs. Il aimait bien étudier ça.
Alors, c'est pas du tout, il n'aimait pas commander les. Alors ça, c'est un passage célèbre. Il y avait un peloton d'exécution pour juger un déserteur allemand, qui jouait aussi des souteneurs, qui avait séduit une petite Française, donc il avait disparu, et puis il a commencé à la tromper et à la battre. Et donc elle l'a dénoncé. Donc il a été condamné. Et Junior a été chargé de diriger le plateau d'exécution. Il dit, j'aurais pu essayer de ne pas le faire. Mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été peut-être encore pire. Et puis, je peux voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, il a accepté de commander ce plateau d'exécution. J'ai eu des discussions avec des gens dans la foule qui m'ont dit, Junior a diriger le peloton d'exécution d'un résistant français. Je me dis, c'est pas un résistant français, c'est un déserteur allemand. On m'a répondu, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. Voilà, donc voilà votre réponse. Et alors, sur sa curiosité, il y a une espèce d'optimisme de l'humeur devant la mort qui était très, très sensible, vous savez, à ces espèces d'expérience de la mort, des gens qui croient mourir et qui reviennent en vie. Par exemple, des gens qui sautent en parachute, le parachute ne s'ouvre pas, ils reviennent en vie. Ce sont des choses très étranges, ça intéresse beaucoup les Américains et d'autres. Il est matérialiste, on n'a pas parlé de. Et les gens racontent des choses très étranges, c'est-à-dire qu'ils ont une impression d'euphorie, ils sont pris dans un grand tunnel. Ils vont vers quelque chose de lumineux. Alors, il y a des choses comme ça, c'est Jérôme Bosch, qui passionne maintenant les gens. Et quand ils reviennent à la vie, ils sont déçus. Alors, ils se voient également au-dessus de leur corps. Et donc, il était fasciné par ces choses-là. Donc, il est fasciné par la vision de la mort matérielle, de savoir ce qui se passe. Et c'était un grand admirateur de Longuet. Il citait beaucoup Bois, qui, quand il est mort, on lui a demandé s'il avait peur de la mort, ce qu'il ressentait, il avait une immense curiosité. Et là, c'est l'immense curiosité.
Il a attendu 103 ans pour cette curiosité.
Est-ce qu'il a une chance? Est-ce que ce n'est pas une chance?
C'est patient. Dernière question, madame.
Écoutez, j'ai un livre là que j'ai redécouvert quand j'ai su que vous alliez me présenter, qui s'appelle Héliopolis.
Oui.
C'est un livre extraordinaire, j'ai lu il y a 35 ans. Oui. Il condense, c'est un livre qui a été écrit autour de ses 80 ans.
Qui est un livre, donc, oui. Il était jeune quand il a écrit Héliopolis.
Comment?
Il était assez jeune quand il a écrit Héliopolis.
Enfin, il a été republié peut-être plus tard. Enfin, c'est ce qui est marqué sur la page 4.
Oui.
Et je voulais avoir votre opinion parce que c'est un petit peu d'autres livres qui ont été publiés, Le meilleur des mondes, etc. Il fait une analyse, d'après la présentation, l'essence de sa personnalité est là-dedans, avec tous les courants qui le traverseront.
Oui, ben, il y a une bonne présentation, vous voyez.
Mais il n'a pas été réédité.
Oh, si, si, si. Si.
Si. Voilà.
Il a vécu jusqu'à 103 ans, d'après la presse, 104 ans, 115 ans, 102 ans. Il n'y a pas d'assistance importante.
C'est-à-dire, c'est, il est mort en février et il était né le 29 mars. Donc il est mort à 102 ans. Voilà.
Ah, oui. Je l'ai revu aussi.
Oui, et il est mort, vous l'avez vu sur le tard, jusqu'à à passer 100 ans. Et oui. Comment il était, comment se faisait-il, s'il est resté en bonne santé, comment il a pu
oh, alors, il s'est là, il faudrait à un médecin, mais je ne sais pas. Si j'étais sûr de ma façon, si je savais exactement ce qu'il a fait, je serais sûr de vivre bon 603 ans. Et je ne suis pas sûr. Après, j'en ai 78.
Oui, mais si je pose la question, c'est parce que j'ai lu qu'il marchait tous les jours, oui. Tous les jours, 4 heures.
Oui, 4 heures, c'était à la fin de sa vie, c'était moins, si vous voulez, parce qu'il était devenu plus fragile. Il faisait d'immenses promenades, j'en ai fait avec lui, en hiver, dans la neige, dans la campagne de Wittlingen, parce que c'était des grands marcheurs. Il était connu aussi pour prendre des bains froids tous les matins, dans la température du robinet. Il buvait très sec. Je peux dire également qu'il était très, très gourmand et qu'il buvait sec.
Absolument.
Merci.
Après, parce que je vous le temps d'un peu
compter, mais je voulais, est-ce que vous pourriez revenir même rapidement sur la figure du travailleur et sur cette œuvre majeure de l'humain, le travail.
Oui, alors, c'est évidemment. Pour en parler des heures, c'est le problème. C'est-à-dire que Hüther s'est très bien rendu compte de la surpuissance de la technique pendant la Première Guerre mondiale. Il n'a pas été le seul. C'est-à-dire que c'est des choses qui a montré aux gens la vanité de l'optimisme du progrès. Et il a donc réfléchi à la technique comme étant finalement l'incarnation précise de la volonté de puissance. Et ça, ça a fasciné Heidegger. Heidegger a considéré que c'était une œuvre, non pas qui avait pour lui le défaut de rester à l'intérieur de la métaphysique. On peut être à l'intérieur de la métaphysique, même en étant contre comme Nietzsche. Mais il en a donné la meilleure description possible. De règne de la technique. Et alors, ça n'a fait que croire qu'on veut dire la façon dont on est espionné par Internet, enfin, c'est dire on est devenu les esclaves de la technique occidentale. Et alors, une chose que je pourrais dire, c'est que Hüther était effrayé, mais il comptait un petit peu sur les autres cultures pour devenir des contre-cultures, contre ce règne de la technique. Et il disait que jamais les Chinois ne pourront avoir 1 milliard de Chinois pour avoir une voiture, du point de vue de la destruction. Et malheureusement, on y est. Alors, je ne sais pas. Alors, à moins que le côté obscurantiste de l'islam flotte par terre toute la technique de l'Occident, pour l'instant, c'est angoissant parce qu'on ne voit pas comment on peut sortir de cette situation où l'homme a perdu c'est très long. Hein. Par exemple, quand dit Descartes, l'homme va devenir maître et possesseur de la nature. Mais l'homme est un petit fragment de la nature. Voilà. Comment est-ce qu'un petit fragment de la nature serait possesseur de la nature ? Pour mieux se retrouver à l'intérieur de la nature et approfondir notre rapport à elle. Enfin, c'est toute petite question, réponse pour une grande question.
Alors, merci, monsieur. Une erreur dans le livre. Ah, bah, vous avez parler juste après, parce que je vais d'abord le remercier. C'est vraiment passionnant. Alors,